crois que c'est vraiment le problème de la personne, aujourd'hui, qui est le problème que tous les philosophes abordent, et que les psychologues abordent aussi. Donc on est devant un problème actuel, qui n'est pas le problème d'Aristote, mais qui est le nôtre, qui est le problème du XXe siècle. Du reste, je crois, on l'a dit, c'est Kierkegaard qui a dit ça. Il a dit que tout le problème de la philosophie occidentale, depuis les théologiens, c'est le problème de la personne. Donc pour la philosophie européenne, c'est très intéressant. Tandis que tout le problème de la philosophie grecque, c'est le problème de l'âme. Et je crois que c'est juste. Je crois que si on veut faire une synthèse de toute la philosophie grecque, c'est le problème de l'âme. Découverte de l'âme, qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme est-elle immortelle? Et tout le problème de la philosophie occidentale, après les grands théologiens, c'est le problème de la personne. Ça ne veut pas dire que le problème de la personne est un problème de philosophie chrétienne. Non, puisqu'il existait déjà en philosophie grecque. Mais que le christianisme a insisté énormément sur le problème de la personne. Je parle de ce problème de la personne et je vois que dans la personne, il y a cette composition âme et corps, quelque chose d'invisible, quelque chose de visible, qu'il y a ce tout, qu'il y a cette croissance dans ce tout, je deviens une personne. Et qu'en même temps, ma personne touche ce qu'il y a de plus spirituel en moi. Et que cette personne, elle demeure. Elle ne passe pas. Et donc, il y a quelque chose qui est au-delà du devenir et de la croissance en moi, qui est mon être. Alors, qu'est-ce que c'est que cet être qui est au-delà du devenir? Ce problème de la personne se pose à moi face à Hegel, qui ramène tout au devenir, face à Heidegger, qui identifie le problème de la pensée et le problème de l'être. Je suis donc en face de deux positions presque diamétralement opposées, Heidegger et Hegel. Et je vais essayer de comprendre que il faut dépasser ces deux positions pour redécouvrir aujourd'hui ce problème d'une philosophie première, dans toute sa pureté, dans toute sa limpidité. Et pour cela, je reviens à l'expérience, qui était le point de départ de toutes les parties de ma philosophie. Et je vois que toutes ces expériences ont quelque chose de commun, tout en étant tout à fait diverses. Autre chose, l'expérience de travail et l'expérience de l'amitié. Autre chose, l'expérience de la coopération politique et l'expérience de l'amitié. Autre chose, l'expérience de ce qui est mu et de ce qui se meut. Toutes ces expériences, ces cinq expériences, sont diverses et pourtant ont quelque chose de commun. Qu'est-ce qui est commun? C'est que toutes ces expériences impliquent le contact avec une réalité extrinsèque à moi, autre que moi, qui se traduit dans ce jugement d'existence. Ceci est. Ceci est comme une sorte de méta-expérience. Je ne m'arrête jamais l'expérience « ceci est ». Ben, si je vais acheter au marché des carottes, je vois de très belles carottes, je ne dis pas à la marchande avant de les acheter: est-ce qu'elles existent, ces carottes? Elle me vendrait pour un fou. Mais si j'ai peur d'être trompé, je les touche. Et si en les touchant, je trouve qu'il y a quelque chose de particulier, je dirais, c'est curieux. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Au fond, le jugement d'existence est présent à toutes mes expériences externes et internes. Quand j'ai eu un rêve, je dis ça à cause de Descartes, quand j'ai eu un rêve, ce rêve, il a existé en moi. Il n'a pas existé dans la réalité, mais il a existé en moi. Et ce rêve provient d'une quantité d'autres expériences que j'ai eues, peut-être à cause d'un très bon repas que j'ai fait le soir, et que ce rêve a été plus intense à cause de cela, puisque ça peut se transformer en cauchemar, mais il existe. Donc, au-delà de toute variété d'expériences, il y a quelque chose de commun. Ceci est. Et quand je regarde le « ceci est », je vois que ce jugement regarde toutes les réalités. C'est ce qui avait frappé Raïssa. quand elle avait vu le petit chat à côté d'elle, et qu'elle-même, elle se voyait en face du chat. Elle dit, ce petit chat existe, moi j'existe. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Mais c'est que nous existons tous les deux. Alors qu'est-ce que c'est que l'exister qui unit le chat et l'homme? On voit très bien ça. Alors, on a dit à partir de là, intuition de l'être. Il y a quelque chose de juste, mais ce n'est pas tout à fait juste. En réalité, on pourrait dire, il y a intuition de ce rapport qui existe entre chat et exister, Raïssa et exister, et moi-même et exister. Là, il y a comme une relation où il y a quelque chose de commun. Et c'est ce quelque chose de commun dans ces diverses relations qui me dit intuition de l'être. Cette intuition de ce rapport éveille mon intelligence et la met en état d'admiration pour interroger. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et alors c'est là où il y a quelque chose de très important, c'est que c'est dans l'interrogation, je ne dis plus ceci est, mais je dis être. L'être apparaît dans l'interrogation. Et je crois que c'est ça qui a frappé énormément Heidegger. C'est que l'être apparaît dans toute sa pureté dans l'interrogation. Donc, à travers l'intelligence. C'est l'intelligence qui a soif de savoir ce que c'est que l'être. Parce que l'être, je ne l'ai jamais vu. C'est évident. J'ai vu des réalités existantes. Et quand je vois quelque chose, c'est le ceci qui m'intéresse beaucoup plus. C'est la vache. C'est pas son exister. C'est le chat. C'est pas son exister. C'est ça qui m'intéresse. Tandis que l'intelligence s'intéresse à essayer de saisir ce qu'il y a de commun. Et là, elle pose qu'est-ce que c'est que l'être. Je passe donc du jugement d'existence, ceci est, où le verbe être est au présent, à l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être, où l'être se prend selon un mode infinitif, donc se prend selon un mode substantiel. C'est l'être que je regarde pour lui-même. Et l'être s'est exprimé dans un verbe. Alors c'est ça qui est très très curieux. Le verbe est toujours relatif, d'habitude, à un nom. Et là, le verbe est pris pour lui-même. Et alors si je reste à un niveau purement linguistique, au niveau de la grammaire, je dirais, mais le présent, ce n'est pas l'infinitif. Et la signification du présent n'est pas celle de l'infinitif. Donc, je ne peux pas revenir à l'expérience. C'est l'interrogation qui fait que l'être a son caractère propre. Et je resterai à l'interrogation. Et donc, je resterai devant cette interrogation, penser l'être. Et Heidegger est resté devant penser l'être. Et je ne peux rien dire de plus. Et toute la métaphysique consiste à penser l'être. En réalité, il ne s'est pas arrêté là-dessus. Ça prouve qu'il a... Il a commencé à développer ça, mais c'est penser l'être qui est le noyau central. Si au contraire, je dépasse l'aspect de la grammaire, qui est le conditionnement de ma pensée, et je regarde la signification du verbe être. La signification du verbe être est la même dans ceci est et dans être. Ce n'est pas deux verbes distincts, c'est le même verbe qui a la même signification, être. Donc je peux, quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être, revenir à l'expérience, ceci est, et essayer de saisir à travers cette expérience l'être. C'est là toute la différence entre une philosophie réaliste qui regarde la signification de l'être et la philosophie heideggerienne qui, elle, s'arrête au conditionnement de mon langage, le présent et le point de vue de l'infinitif du même verbe. Alors il faudrait ici développer tout le cheminement de cette philosophie première. Je peux le faire très rapidement. J'interroge qu'est-ce que c'est que l'être. Et je découvre nécessairement qu'il y a au-delà du devenir quelque chose de radical. Puisque ce qui m'intéresse en philosophie première, c'est l'homme. Qu'est-ce que l'être en moi? Qu'est-ce qui est commun à travers toutes mes opérations? Qui dépasse même la distinction de l'âme et du corps. Puisque mon corps existe dans mon âme, et mon âme existe dans mon corps, n'y a pas deux existés, il y a un seul existé. Donc je suis au-delà de la distinction de l'âme et du corps. Je suis donc ce qu'il y a de radical en moi. C'est là où je rejoins le « je suis ». Le « je suis », c'est mon âme. Le « je suis », c'est mon corps. Je ne veux pas dire que mon corps, c'est mon avoir. Non, non, c'est mon être. Et donc, il y a quelque chose qui est au-delà de la distinction âme et corps, c'est l'être. Et qui montre l'unité. C'est donc bien en étudiant ce que c'est que l'être que je dépasse la distinction âme et corps. Et je découvre à ce moment-là qu'il y a quelque chose de plus radical dans l'être que dans la vie. Et je le fais par rapport à moi-même, dans mon je suis qui existe. Et je découvre à ce moment-là ce qu'on appelle ce principe radical premier de ce qui est la substance. C'est quelque chose de radical. Ce principe radical, je dis substance parce que le mot existe, mais il faut le redécouvrir. Si je prends uniquement le mot, comme on l'a répété souvent, on dira que la substance est le sujet. C'est ce qui a été dit dans toute la scolastique décadente. On a pris substance sujet. Et alors à ce moment-là, on n'y comprend plus rien du tout. Si au contraire, je reprends le problème de la philosophie première à partir de la personne humaine, à partir du « je suis » qui est, je comprends qu'il y a un au-delà de la distinction de l'âme et du corps. Et je crois que cet au-delà de la distinction de l'âme et du corps est quelque chose de très important. Je peux prendre un autre moyen pour toujours découvrir ce qui est radical et ce qui est premier dans l'ordre de ce qui est. Parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est saisir ce qui est premier dans l'ordre de ce qui est. Je peux me servir de quelque chose qui est très intéressant dans la philosophie aristotélicienne, ce qu'on appelle les prédicaments. Les prédicaments, c'est très simple, c'est quelque chose qui est d'ordre antérieur à la philosophie première. Quand je regarde l'homme, je vois qu'il y a en lui 10 déterminations, ce qu'on appelle les prédicaments. Et tous ces prédicaments expriment quelque chose de l'homme. Et si ces prédicaments expriment quelque chose de l'homme, il y a cependant une unité. Oui, l'unité des prédicaments. L'unité des prédicaments, ce n'est ni ce qu'Aristote appelle la substance première, c'est-à-dire pierre, ni la substance seconde, ce qu'Aristote appelle l'homme, c'est l'unité de pierre et de homme. Vous voyez, l'individu et la nature humaine. Homme exprime la nature humaine qui existe dans tous les hommes. Et l'individu pierre, c'est quelque chose d'unique, particulier. Qu'est-ce qui fait cette unité entre la nature et l'individu? C'est qu'il y a quelque chose de radical dans l'existence de pierre. Qui est sa substance. C'est pas son individu, c'est pas son individuation, c'est sa substance. Qui, elle, fait l'unité entre l'individu et l'homme. Donc, j'ai parlé des pistes diverses qui me conduisent à saisir ce qu'il y a de premier dans ce qui est en tant qu'être, dans l'homme. C'est ce que j'appelle la substance. Mais ce n'est pas suffisant. Je peux poser toujours qu'est-ce que c'est que l'être ? Parce que c'est très bien de dire ça, mais l'homme, la personne humaine, on l'a dit, elle n'est elle-même que quand elle atteint la fin, que quand elle découvre la fin. Or, l'opération humaine n'est pas sa substance. Alors, c'est accidentel. Alors, on va dire qu'atteindre sa fin, c'est accidentel. Alors, je prétends au contraire qu'atteindre sa fin, c'est absolument essentiel à la personne humaine. Si dans la personne humaine, il y a ce fait d'être finalisé par une opération d'amour, le choix amical ou une autre opération, mais qui est essentielle à l'homme, je vois que la distinction substance et accident ne suffit pas. C'est très bien, c'est une distinction intéressante, mais ce n'est pas ça qui va me faire comprendre ce que c'est que la personne humaine. Atteindre ma fin, c'est absolument essentiel à la personne humaine. C'est contenu dans le « je suis ». Si je réfléchis bien, je ne suis parfaitement moi-même que quand j'atteins ma fin. C'est là où je suis parfaitement moi-même, dans mon « je suis ». Et ceci est en même temps ma substance. Alors, ça prouve que dans la réalité profonde, la substance n'exprime qu'un aspect de l'être et qu'il y a quelque chose d'autre dans l'être qui est peut-être encore plus profond que la substance. C'est ma finalité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça au point de vue de l'être? Et c'est là où je vais entreprendre toute une recherche extrêmement intéressante pour découvrir ce qui finalise l'être, ce qui est la fin de l'être. Et je découvrirai l'être en acte. Et l'être en acte va répondre de ce fait que l'être en acte, c'est l'être dans ce qu'il a d'ultime. Je ne peux pas aller au-delà. Et ce qu'il y a d'ultime dans l'acte, dans l'être, est encore plus être que ce qu'il y a de premier et fondamental. Et donc, la personne humaine dans le « je suis » implique nécessairement d'atteindre sa fin. Je vois donc que l'être va me faire comprendre comment le « je suis » de ma propre personne implique nécessairement l'union de quelque chose de très radical en moi que j'appelle ma substance et ma propre finalité. Les deux s'unissent. Et c'est peut-être cela alors, ce qu'est la personne. C'est de pouvoir unir dans la réalité existante ce qu'il y a de fondamental dans l'être qui donne à l'être son autonomie et ce qu'il y a d'ultime dans l'être qui donne à l'être sa perfection et qui permet à l'être d'être parfait. Et c'est le « je suis » qui fait cette unité. C'est là où je comprends comment toute cette recherche de philosophie première est essentielle pour comprendre ce que c'est que la personne. Autrement, je risquerais de rester devant une dualité que je ne comprends pas très bien. Là, je nie quelque chose de parfait. Et j'irai encore plus loin. Je dirais, ces deux aspects sont le « je suis ». Et donc, ces deux aspects impliquent une unité qui est exprimée dans l'être « je suis ». Le « je suis » implique l'autonomie dans l'être, la substance. Et je préciserai que ma substance, c'est mon âme et que le « je suis » implique la saisie de ce qu'il y a d'ultime, ma finalité. Et que cette finalité et ma substance ne sont pas deux choses distinctes et séparées. C'est très vrai, ça représente dans l'ordre de ce qui est deux aspects extrêmes, mais ces deux aspects extrêmes sont un. Et je le saisis dans mon « je suis », où je saisis mon autonomie et ma finalité. Pour atteindre ma finalité, il fallait mon autonomie. Et que la finalité n'est parfaitement elle-même que si elle est dans l'autonomie.
On voit un exemple très très concret, c'est passionnant, hein, où aujourd'hui cette distinction manque, c'est pour le statut de l'embryon. Parce qu'on arrive à dire qu'il y a un être autonome radicalement exactement. Différent des autres, mais il est potentiel et on n'arrive pas à définir ce que peut être un être en acte.
Un être en acte.
Qui est vraiment une personne humaine.
Parfaitement en acte, une personne humaine parce qu'elle atteint sa fin.
Voilà.
Tant qu'elle n'a pas atteint sa fin,
et
elle n'est pas une
personne.
Une
substance, c'est-à-dire qu'il y a un être indépendant, autonome, qui
voilà.
Existe.
L'autonomie de l'être exprime cette autonomie, mais ça ne dit pas l'achèvement.
Il faudrait que vous le redisiez au bout de l'embryon, ça, parce que je trouve que
c'est très curieux. Ce qui est très curieux, c'est de voir que, de fait, hein, la philosophie de la substance a existé avec des modifications complètes jusque ces derniers temps. Maintenant, l'idéalisme le plus parfait supprime la substance. Quand on voit Husserl, on ne parle plus de substance.
Hegel, la substance est devenue le sujet.
Voilà.
C'est la définition même de l'Hegel.
Donc on a supprimé la substance post-hegelienne. Et la philosophie de l'acte, on la cherche éperdument. On essaie. Mais on ramène l'acte à l'exercice. Parce qu'on a perdu le sens de la finalité. Et donc on ne voit plus le contenu. Et la philosophie de l'acte, ce sera justement cette espèce de processus. Ce sera la dialectique. Donner dans un mouvement constant. Mais ce n'est pas l'acte qui me fait atteindre un bien. Alors, si on peut aller jusqu'au bout de ce point de vue, philosophie première et personne, je crois que ce qui est très intéressant à voir, c'est de comprendre que quand je réfléchis sur ce que je suis, comme personne, c'est ça qui m'intéresse, au fond, en définitive, c'est là où toute ma philosophie s'achève. Qu'est-ce que je suis comme personne? C'est ça qui m'intéresse. Savoir comment j'existe. Et je dis tout de suite que, au fond, l'expérience de la personne, c'est l'expérience la plus parfaite de l'être que je peux faire. Puisque c'est l'être qui atteint sa perfection. Et donc, c'est là où, de fait, mon intelligence va être dans le laboratoire le plus parfait qui soit. Saisir une personne. Et au fond, le philosophe est avide de saisir les grandes personnes. Il aime de saisir. Un grand savant. Un grand artiste, un grand ami, c'est-à-dire la personne humaine, dans ce qu'elle a de plus fort. Et je vois là que le je suis rejoint ceci. Le je suis rejoint le ceci parce que ceci permet dans le je suis de saisir quelque chose qui sera toujours au-delà de ma conscience. Le danger, c'est d'unir le « je suis » la conscience. C'est le grand danger. Alors, on ramènerait à ce moment-là l'homme à la conscience, la personne à la conscience, ce qui est faux. Parce que quand je dors, je reste une personne. Ce serait trop commode, on tuerait les gens quand ils dorment. Ça n'aurait plus aucun crime. Or, j'ai conscience quand je dors, mais quand je dors, je n'ai plus conscience de moi, et pourtant ma personne existe. Le ceci permet de corriger ce qui reste trop subjectif dans le je suis pour montrer l'objectivité. Mon corps, il fait partie de mon je suis. Et dans mon corps, il y a la matière. Et cette matière a quelque chose d'irréductible que je ne saisis jamais parfaitement. Il y aura toujours en moi une potentialité radicale qui ne sera pas pleinement actuée. Et pourtant, ça fait partie de mon être. Jusqu'à la dernière minute, ce sera comme ça. Et c'est ce qui explique la possibilité de la mort. Autrement, je serais tellement un dans ma personne que je ne mourrais pas. Pourquoi, malgré cette unité si forte de ma personne, je suis encore un être corruptible? C'est parce qu'il y a, à la racine de mon être, une potentialité radicale, la potentialité de la matière, qui n'est jamais totalement déterminée par l'âme. L'âme n'est jamais totalement victorieuse. Et c'est pour ça que la corruptibilité demeure. Je reste un être corruptible tout en étant une personne. Et ça, c'est le drame. C'est ce que Nietzsche a très bien senti, ça. Il a dit que l'homme était un drame. Parce que, évidemment, porter en moi l'incorruptibilité et la corruptibilité, mais c'est le drame le plus fort qui soit. Porter en moi cette détermination d'être un être qui est lié à cet univers et qui est parti de l'univers et qui pourtant est un tout comme une personne, mais c'est dramatique ça. La seule manière de dépasser le drame de Nietzsche, c'est de découvrir que je puis, par ma finalité, être de plus en plus victorieux de mon conditionnement radical qui provient de ma matière et qui provient du corps, et donc de cette corruptibilité. Et alors, la personne humaine devient à ce moment-là celui qui est victorieux de sa propre corruptibilité, mais qui sait qu'il ne peut jamais être totalement victorieux et qu'il accepte. Je crois qu'on pourrait encore, on peut y aller ? Je crois qu'on pourrait encore montrer quelque chose qui me semble très intéressant. Un de mes frères dominicains, qui était professeur à l'Institut catholique de Paris, la dernière année où il enseignait la métaphysique à l'Institut catholique de Paris, avait dit, enfin, cette dernière année, on est un peu plus libre, sortir des programmes, puis se poser la question, y a-t-il deux métaphysiques? Une métaphysique objective de l'être, une métaphysique subjective de la conscience. Aristote, Descartes. Je crois ça très intéressant. Au moins, de se poser la question. On doit se la poser. Quand on voit ce que je disais tout à l'heure, ce que j'aime bien, la philosophie de l'âme, la philosophie de la personne. Et comment se fait la rencontre des deux? Et en fait, c'est le problème actuel, ça. Je crois que si on prend le débat de cette manière, ceci est fonde la philosophie première dans ce qu'elle a de plus traditionnel, mais fondamental. L'ontologie, j'étudie ce qu'est la réalité en tant qu'être. C'est le logos de ce qui est qui m'intéresse. Et c'est la seule chose qui m'intéresse. Mais le ceci me conduit à cette expérience majeure, je suis. Où, dans le je suis, l'être et le je se tiennent. Je ne peux plus les séparer. Et il y a tout un aspect subjectif du je suis. Je peux saisir l'être comme de l'intérieur dans le je suis. Tandis que quand je dis ceci, je saisis l'être d'une manière tout extérieure. Nous retrouvons un des conflits constants de la pensée philosophique. Est-ce que l'expérience externe est plus importante que l'expérience interne? Ce que je crois un faux problème, parce que les deux expériences sont inséparables. Mais ce problème s'est posé constamment et on le repose tout le temps. Et alors on retrouve au terme, ceci est le primat de l'expérience externe, je suis cette expérience interne. Et on voit que dans le je suis parfaitement conscient, j'atteins ceci est. Et donc ceci est me conduit au je suis, et le je suis respecte ceci est. Ce qui montre bien qu'il n'y a qu'une seule métaphysique, qu'une seule philosophie première. La philosophie première de ce qui est, mais cette philosophie de ce qui est, donc de l'exister en tant qu'être, aboutit au problème de la personne, qui est au terme de toute la philosophie première, qui dépasse d'une certaine manière la distinction objective et subjective, parce que l'être comme tel n'est ni subjectif ni objectif, il est. Pour couper, quelquefois c'est bon, parce que vous pourriez dire, mais vous voyez, très bien, on arrive là au sommet de la métaphysique. Et alors, qu'est-ce que vous faites? On est tout à fait à l'Himalaya. Qu'est-ce qu'on fait? Vous dites quand je pars.
C'est bon.
Bon. Ce problème de la personne qui, d'une certaine manière, me met au sommet de toute l'enquête de la philosophie première. Au fond, la philosophie première est pour découvrir ce qu'est la personne et la place de l'intelligence et de la volonté, de l'amour dans la personne. Tout cela porté par le point de vue de l'être, de l'âme. Je crois qu'il faut ajouter que c'est bien à partir du problème de la personne qu'il faut aujourd'hui se poser le problème, existe-t-il un être au-delà de la personne humaine? Puisque la personne humaine est vraiment l'expérience la plus parfaite que j'ai de la réalité. Mais je me situe donc au niveau de cette expérience pour regarder l'horizon et voir si dans l'horizon il n'y a que la personne humaine. Est-ce que la personne humaine et pour l'homme
un terme,
un mur, ou au contraire un tremplin magnifique pour voir comme d'en haut d'une montagne le soleil qui se lève? Est-ce que je puis dire que c'est à partir de la personne que je découvrirai au plan métaphysique la nécessité de poser un être? Personne qui ne soit.
en acte pur, voilà.
Acte pur.
Pas de potentiel.
Sans aucune potentialité, sans aucun devenir. Et qui soit source, par le fait même, de toutes les sources en personne. Source de l'être, source de la vie, source de l'amour. Première constatation, parce que je crois ça important, surtout depuis Kant, c'est que la personne humaine est vraiment l'expérience la plus parfaite que je puis avoir des réalités qui sont autour de moi. Ces réalités sont multiples, je constate. Il n'y a pas que moi qui suis une personne. Le ceci est, dans le je suis, montre bien qu'à côté de moi, il y a d'autres personnes. Elles sont donc multiples. Si elles sont multiples, elles ne sont pas premières. La multiplicité n'est jamais première au plan métaphysique. Alors, où je dois dire que ma personne, je l'ai grâce à une autre personne qui a été pour moi source d'être, source de ma personne. On a dit tout à l'heure que justement, ce qui caractérise la personne, c'est que je l'acquiers. C'est ma propre conquête, ma personne. Si du reste le danger, c'est de m'enorgueillir de ça. Parce que la personne me donne mon autonomie et me donne ma finalité. Et à côté de moi, j'ai une autre personne qui dit la même chose. Donc je suis bien obligé d'accepter que aucune autre personne n'est source de ma personne. Parce qu'elle n'est pas plus que moi. Et moi, je n'oserai jamais, même si j'ai une influence sur une personne, prétendre que c'est moi qui est source de sa personne. J'ai subi des influences, j'ai eu des maîtres, j'ai eu des personnes qui m'ont indiqué la route qu'il fallait prendre. Mais jamais une personne humaine n'a été pour moi source de ma personne. Alors, je suis obligé de constater que la multiplicité des personnes humaines me montre qu'aucune personne humaine, à cause de cette multiplicité, n'est première dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de l'intelligence, dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre de l'autonomie. Alors, se pose avec beaucoup d'acuité, existe-t-il une personne qui soit être parfait, acte pur ? Je dois me poser la question. Et je dois me poser la question d'autant plus que dans les traditions religieuses, on me parle d'un Dieu. Le mot Dieu vient des traditions religieuses. Et là, je peux me poser la question, est-ce que ce Dieu dont parlent les traditions religieuses est-il un mythe ? Un mythe pour m'apaiser ? Un mythe pour me dire, mais oui, et courage, il y a quelqu'un qui t'attend. Ou est-ce que c'est une réalité? Une réalité que je peux atteindre par mon intelligence, par mon cœur. Si ce Dieu dont parlent les traditions religieuses existe, il est le Créateur, il est premier et je dépends de lui. Y a-t-il une signature de cet être premier en moi, si je dépends de lui, et si je dépends directement de lui, et si je dépends immédiatement de lui, c'est-à-dire si mon âme est créée par lui, est-ce que je puis découvrir en moi cette signature de Dieu, et par là remonter jusqu'à Dieu, et dire mais oui c'est vrai, il y a là la trace d'un être qui n'est pas moi. Et cette trace, est-ce que je la trouve dans la personne qui est à côté de moi ? Voyez, le je suis et ceci est, j'existe. Est-ce que mon existence, qui est pour moi identique à mon je suis, est-ce que mon existence en moi est une existence qui a une autonomie parfaite, cet homme, cette personne humaine qui est à côté de moi, est-ce qu'elle dépend aussi de moi? Est-ce qu'elle dépend aussi d'un autre? Je crois ça capital comme question, comme interrogation. En effet, si Dieu existe, c'est par rapport à mon existence que je peux découvrir la dépendance à son égard. Et uniquement à l'égard de l'existence. Puisque tout le reste fait partie de mon autonomie. J'ai acquis cette autonomie. Et donc ce n'est pas au niveau de ma nature. Comme dit un vieux philosophe grec, si l'éléphant prouvait que Dieu existait, il dirait qu'il est un super éléphant. Si Dieu existe, il n'est pas un surhomme. Il n'est pas un homme. Il ne peut pas être un homme. Et donc, tout ce qui est homme en moi ne peut pas me faire découvrir ce qu'est Dieu. Je dois donc dépasser toute mon expérience du « je suis » au niveau de mes opérations. Et je suis obligé de me placer au niveau de l'être. Seul au niveau de l'être. Donc d'une façon très verticale, je peux remonter. Si il existe, c'est la seule voie d'accès. Il n'y a pas d'autre voie d'accès. C'est déjà énorme ça. Ça écarte toutes les soi-disant voies qui pourraient me conduire à Dieu. Vous voyez, parce que je pourrais dire, hein, j'ai en moi une capacité d'aimer qui n'a pas de limite, qui est infinie.
Mais Descartes parlait de l'infini.
Mais justement. Or, cet infini, là, qu'est-ce qu'il a mis en moi? C'est donc un être qui était avant moi qui m'a mis cet infini, puisque je ne suis pas maître de l'infini, je suis limité. C'est très joli au point de vue psychologique, mais ça ne démontre rien du tout. Et quand elle a bien montré, je passe à ce moment-là de l'intentionnalité de mon désir infini à l'exister. Je tombe dans ce qu'on a appelé l'ontologisme. Et l'ontologisme de droite, c'est justement de dire que je porte en moi une limite et un infini qui me montre que Dieu existe. Et donc l'homme se définit par Dieu. Et si l'homme se définit par Dieu, alors je comprends la réaction violente des ontologistes de gauche, puisque la querelle est entre les ontologistes de droite et de gauche, l'égalisme de droite et l'égalisme de gauche. Et je tombe alors sous le point de vue de la querelle des autres. Dieu limite l'homme. Libérons l'homme de cette limite. Libérons l'homme de cet esclavage. Dieu n'existe pas. En réalité, l'homme seul existe. Rendons l'homme à lui-même.
C'est qui ça?
Feuerbach. On voit très bien comment les deux ontologismes de droite et de gauche ont toujours...
Donc l'ontologisme a créé l'athéisme philosophique.
L'ontologisme a créé la philosophie, ça c'est sûr. Et la réponse de cet ontologiste de droite, ce sera l'ontologiste de gauche. Il répond en s'opposant mais en restant dans la même ligne. Il faut donc dépasser ce point de vue-là. Et pour dépasser ce point de vue-là, il faut comprendre que c'est au niveau de l'être et seulement au niveau de mon exister et pas au niveau de cette espèce de nostalgie d'infini que je porte en moi. C'est vraiment savais que j'existais du chien est étranger à mon exister et totalement autre à mon exister. Et l'exister de celui qui est à côté de moi est aussi totalement étranger à mon exister. Je suis donc unique dans mon exister, mais je suis limité. Et donc, si j'existe actuellement dans cette limite, il est nécessaire bien là comment l'expérience la plus intime que j'ai de ma propre personne est un appel direct et immédiat à poser une réalité qui soit source de mon être. Parce que cette réalité que je suis, cette personne que je suis, par elle-même, n'implique pas ses limites. Il faut donc que mon être soit totalement dépendant d'un premier qui, lui, n'est pas limité. C'est par là que j'arrive progressivement à m'approcher.
C'est important de préciser, donc il s'agit nullement de preuve de l'existence de Dieu au sens
encore
scientifiquement aujourd'hui, mais de voie
de voie d'accès et d'une découverte, d'un dévoilement, d'une présence plus grande que ma propre limite. Et comme le je suis assume le ceci est, le je suis m'ouvre à celui qui peut dire d'une manière unique je suis. Celui qui est. Et c'est dans ce dévoilement profond que je découvre, sans le connaître du reste, parce qu'il m'échappe, il est au-delà de ce que je peux atteindre directement, mais il est présent. Et il est présent intimement à tout ce que je suis, dans l'amour et dans la lumière.
Mais cet être premier ne peut s'atteindre qu'au terme de tout ce cheminement métaphysique que
exactement,
vous avez, qui est éminemment personnel.
Qui est éminemment personnel. Du fait même, hein, tout à fait, c'est dans le je suis.
Chaque philosophe, chaque personne qui philosophe doit pouvoir faire cette découverte.
Puisque le lien,
ça va jusqu'au bout,
puisque
ce chemin.
Le lien avec cet être premier est un lien de créateur à créature. Donc c'est un lien qui est absolument personnel.
Voilà,
c'est pas du tout dans l'anonymat.
Tout à fait, et il ne faudrait pas faire de ces voix une espèce de preuve, comme on a pu le voir, de scolastique de l'existence de Dieu apologétique.
Oui. Ce que du reste, saint Thomas n'a jamais fait, c'est Descartes qui a fait ça, le premier. C'est Descartes le premier qui a parlé de protection de Dieu.
Et saint Anselme, non, l'argument.
Non, l'argument saint Anselme, c'est différent. C'est un argument dans l'ontologie, c'est très spécial, mais c'est à partir de la foi. Saint Anselme est un croyant. Et il montre que dans la foi, il y a de fait un épanouissement parfait de l'intelligence que j'ai du mystère de Dieu. Oui. Donc c'est très très différent. Saint Anselme serait plus proche de la démarche, j'allais dire, de Hegel. De Saint Anselme à Hegel, il y a une continuité, c'est très très curieux. Parce que c'est découvrir à partir de la foi cette intelligence plénière que j'ai de cet être premier qui se dévoile à moi dans sa création. Dieu, en me créant, se dévoile à moi. C'est merveilleux, du reste, quand je vois ça. Mais il se dévoile à moi comme un Dieu caché. Et donc, il se dévoile à moi à l'intérieur même de ma vie intellectuelle et dans ma vie d'amour. Il se dévoile à mon esprit.
Et quelqu'un comme Aristote, avant la révélation, a fait ce cheminement.
Alors ça, c'est très curieux, parce qu'on ne peut pas le dire d'une façon absolue. Il n'a pas fait aussi explicitement, mais il a montré que l'être limité était second. L'être en puissance est second, et est totalement dépendant d'un être en acte. Donc il a posé le principe. Et à partir de là, il a montré nécessairement que tout être contingent, qui est l'homme, dépend d'un être premier, qui peut être qu'acte pur, qui se contemple lui-même, et qui ne peut que se contempler lui-même. Donc, il a posé tous les principes.
Mais c'est ça, parce que dans son éthique, il parle même de la contemplation.
La contemplation, de l'être premier.
L'activité la plus importante, l'ultime de l'homme.
Mais voyez, le traité sur Dieu, qui est dans les catalogues d'Aristote, est-ce qu'Aristote un jour a parlé de la création? C'est pas dit. Mais ce qui est intéressant, contrairement à ce que beaucoup disent quand ils disent « Ah, c'est saint Thomas qui dit ça parce que saint Thomas aime Aristote », c'est pas du tout. Le premier qui a montré qu'Aristote avait nécessairement parlé de la création, c'est Proclus, un commentateur de Plotin, et qui montre que ce que dit Aristote sur Dieu, que tout est dépendant de lui, tout est suspendu à lui, par le point de vue de la causalité finale, implique la causalité efficiente. Donc c'est une dépendance radicale du côté de la causalité finale, il y a une dépendance du côté de l'efficience. Et ça c'est Proclus qui dit ça. Donc c'est intéressant parce que c'est un païen, sans la révélation.
Vous nous avez là expliqué tous les divers développements possibles donc de l'intelligence qui recherche la vérité, que ce soit sur le plan pratique ou sur le plan plus spéculatif, théorétique. En même temps, se pose aujourd'hui tout un certain nombre de questions pour lesquelles le philosophe peut avoir des lumières et peut, pour éclairer ses débats, ses problèmes difficiles. Peut-être que le plus brûlant de tous, c'est celui de la bioéthique, où nous sommes pour la première fois confrontés à des problèmes et des questions qui sont entièrement nouvelles, qui touchent le corps humain et qui touchent les fonctions de reproduction du corps humain, en dissociant pour la première fois la fécondité de par exemple de l'amour conjugal ou en posant des problèmes comme celui de la congélation des embryons. Et la plupart de ces problèmes tournent autour du problème du statut de l'embryon. Et aujourd'hui, les comités d'éthique se posent des questions pour savoir qu'est-ce que l'embryon. Alors, est-ce que philosophe peut donner une réponse à cette très très importante question qui concerne l'essentiel des problèmes qui se posent en bioéthique, à savoir quand est-ce qu'on peut parler du début d'une personne humaine et aussi quand est-ce qu'on peut parler de la fin d'une personne humaine, puisque ces problèmes se posent aussi avec la mort clinique.
Exactement.
Et au fond, qu'est-ce que la personne humaine et qu'est-ce que l'embryon, enfin, à partir de quand on peut parler d'une personne humaine pour l'embryon? Donc je pose en vrai tout ce problème de l'embryon.
C'est évident que c'est un problème extrêmement important et le philosophe doit pouvoir, je ne dis pas résoudre ce problème, c'est pas la question de résoudre un problème, c'est la question de l'éclairer, de comprendre un peu ce qui se passe. Alors, comprenons bien, toujours l'imparfait compris par le parfait. Ça, c'est la grande métaphysique de l'acte et de l'être en puissance qui nous le dit. Et ça, c'est capital pour moi. Et donc, c'est l'homme parfait dans sa personne qui va éclairer le statut de l'embryon. Et non pas le statut de l'embryon qui va éclairer ce que c'est que l'homme. Parce que l'embryon, c'est l'être humain dans un état très imparfait. Dans un état très imparfait. Alors, il faut comprendre comment cet état imparfait peut être compris par l'état parfait, tout ce qu'on peut dire. Alors, je crois que là, ce que le savant nous dit est très important. Parce que le philosophe n'a pas fait cette enquête. Aristote n'a pas osé toucher. Et d'abord, qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec les instruments qu'il avait? Pas possible. Mais il a été très attentif à la question de la procréation et de la génération. Aristote dit des choses très importantes et qui sont là très intéressantes, qu'au fond, la génération est le sommet de la vie végétative. Et donc, pour l'animal, la génération donne le sens à l'animal. C'est à propos de la génération que je saisis la perfection de l'animal. Pour l'homme, la procréation est donc un lieu très important. c'est de voir comment pouvons-nous préciser cette coopération de l'homme avec Dieu. Est-ce que nous pouvons préciser? Le philosophe doit l'affirmer dès qu'il a compris dans un jugement de sagesse que l'âme humaine spirituelle ne pouvait pas provenir des parents et donc qu'elle venait de Dieu et donc qu'elle était créée par Dieu et qu'elle était créée dans l'embryon. À quel moment, ce n'est pas dit, pouvons-nous le savoir? Absolue à quel moment surtout quand il s'agit d'une coopération qui implique une alliance sacrée. Je ne peux connaître l'intervention de Dieu que si Dieu l'a révélée. Or, Dieu ne l'a pas révélée. Et donc, je dois la comprendre dans un ordre de sagesse. Et dans un ordre de sagesse, je dois comprendre que si Dieu laisse l'initiative aux parents, il respecte parfaitement ses causalités secondes. Les parents ne sont pas instruments dans la procréation. Ils sont causes secondes. Causes secondes parce que c'est eux qui décident. Causes secondes parce que, de fait, l'embryon est formé par le lien de la vitalité profonde de l'homme et de la femme dans ce fruit commun de l'un et de l'autre. Et c'est ce fruit commun de l'un et de l'autre qui sera assumé par la création de l'âme. Alors, on me dira tout de suite, mais alors, là, si vous dites ça, vous laissez la permission à l'homme d'avorter au point de départ. Alors je dirais non, parce que je dois respecter, si j'ai découvert l'existence de Dieu et que l'âme est créée par Dieu, je dois respecter l'ordre de la sagesse de Dieu dans cette procréation. Et que dès le point de départ, je sais que Dieu interviendra. Je n'ai donc pas le droit d'arrêter cette intervention de Dieu, puisque dans sa sagesse, Dieu a laissé à l'homme et à la femme l'initiative. Et donc, arrêter cette intervention de Dieu, c'est aller contre la sagesse de Dieu. Ce n'est peut-être pas nécessairement tuer quelqu'un, une personne, mais c'est tuer un être qui doit être un être humain. Donc c'est la suppression d'un être humain. Et là, je vais contre la sagesse de Dieu.
Une personne humaine potentielle.
Une personne humaine potentielle.
Mais je crois que c'est important de rappeler que tout ce que vous dites là, vous le dites dans un regard de sagesse.
Oui.
Puisque vous parlez de Dieu, de la création.
Uniquement.
En même temps, nous sommes dans des sociétés de laïques où pour très peu de gens,
ce
n'est pas des
gens.
Arguments qui tiennent,
pas.
Qui portent
J'en
pas.
Suis tout à fait.
Est-ce que vous pourriez parler de l'embryon d'une manière philosophique sans aller qui n'implique pas le regard de sagesse et qui puisse déjà donner des éléments?
Je peux simplement montrer que le point de vue de la procréation, alors là je suis à un niveau d'éthique humaine, fondamentalement humaine, dans la perspective d'une éthique de l'amitié,
oui.
De l'amour d'amitié. Je peux montrer que l'acte de procréation implique un don personnel de l'un et de l'autre, et qu'il est source de fécondité,
oui.
Et que cette fécondité est impliquée dans le don mutuel de l'un et de l'autre.
Donc il y a une intention de donner la vie.
Il y a une intention de donner la vie. Il y a une intention dans le don des corps de donner la vie. Et donc de respecter profondément l'intention de l'un et de l'autre dans ce don de la vie.
Et est-ce qu'on ne peut pas aussi, par la métaphysique tout à l'heure de l'acte, comprendre que l'embryon est un être potentiel?
Que l'embryon est un être potentiel au point de vue de l'homme, puisque ce sont des personnes humaines qui en s'aimant, se donnant, sont source de vie pour un être nouveau. Et que, même si je ne parle pas de l'âme, je parle de l'être humain. Et que si c'est l'être humain qui est au point de départ de là, il est source d'un être humain.
Mais ce que je voulais
dire, il n'explique pas comment, puisqu'il ne parle pas de l'âme, et qu'ils ne veulent pas le regarder, mais ils sont source d'un être humain. Donc, leur acte demande d'aller jusqu'à l'épanouissement. puissant d'être humain.
Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui disent, des médecins qui disent, bon, soit c'est une personne humaine, soit c'est pas une personne humaine. Et je crois que c'est faux, c'est le problème.
C'est tout à fait faux.
Parce qu'on peut
dire, ça.
Aussi, grâce à ce que je veux dire, à la philosophie première que vous développez, on peut arriver à bien comprendre qu'il peut y avoir une personne humaine dans sa substance,
exactement,
et qui soit en devenir.
Tout à fait.
Et qui donc sera un jour en acte.
Elle est tout entière, donc, tournée vers l'être humain.
Donc pour vous, la définition que donnera le professeur Jean Bernard et le comité national d'éthique de dire que l'embryon est une personne humaine potentielle vous paraît juste?
Oui, c'est une personne humaine potentielle.
Philosophiquement.
Je voudrais, moi, aller plus loin. Si je parle de l'âme humaine, je comprends très bien que ceux qui ne peuvent pas regarder
un regard
de
sagesse,
l'âme humaine, disent ça. Et en tant que n'ayant pas ce regard de sagesse, ils ne peuvent pas dire autre chose.
Oui.
Ils peuvent dire que avorter, c'est empêcher un être humain d'être une personne plénière. Et donc là, ils dépassent leur propre droit, puisque de fait, cet être qu'ils ont voulu au point de départ, ben ils en sont responsables. Vous voyez, je touche la responsabilité dans l'ordre de l'amitié par rapport au fruit de leur amour.
D'accord.
Et donc ils sont responsables de cet être-là. Et étant responsables, ils doivent aller jusqu'au bout de leur responsabilité.
Et s'ils n'ont pas voulu cet être?
S'ils n'ont pas voulu cet être, alors on est en face d'un acte qui est... Bon, ils n'ont pas voulu cet être, il faut encore voir. Bon, ils se sont aimés en se donnant l'un à l'autre.
Sans intention de fécondité.
Sans intention de fécondité, mais étant quand même dans une intention de s'aimer. Et de s'aimer jusque-là, sachant très bien qu'il peut y avoir fécondité. Bon, ils ont tout fait pour ne pas en avoir, en respectant les moments. Et puis, il y a une fécondité. Ils doivent être conscients à ce moment-là que cet acte qu'ils ont fait pouvait avoir cette fécondité et qu'ils n'étaient pas maîtres d'arrêter cette fécondité. Puisque cette fécondité est quelque chose de plus radical qu'est au niveau de la nature humaine, de ce développement même de cette fécondité dont ils ont pris l'initiative. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est un manque de fidélité à la responsabilité qu'ils ont pris l'un par rapport à l'autre. Alors ils ont pu être complices l'un et l'autre.
Oui,
et ça n'enlève pas la responsabilité.
L'ordre de la personne humaine à la fécondité dépasse sa propre liberté.
Exactement.
C'est que je ne suis pas libre que le don des corps soit orienté à la fécondité.
C'est un fait.
Ma liberté est seconde par rapport à ce que je
suis. C'est un fait de la personne humaine.
De l'embryon, de la procréation. Est-ce que vous pourriez dire un mot du terme de la vie humaine, ce que peut dire le philosophe sur la mort, de manière générale, et puis sur le moment de la mort, et sur les problèmes liés à la mort, à savoir la possibilité de se donner la mort par l'euthanasie. Point de vue de l'euthanasie, est-ce que vous pourriez développer ces différents aspects?
C'est évident que c'est le domaine du point de départ et du terme de la vie humaine. Aujourd'hui, les problèmes se posent avec une très grande acuité. D'une part, parce que le point de vue de la médecine avec les hôpitaux font que l'homme est comme soustrait très souvent à son point de départ et au terme. Il faut bien comprendre ce que je veux dire. C'est que avant, la naissance se passait en famille et la mort aussi. Avec les soins médicaux aujourd'hui extrêmement poussés, on a l'impression que la naissance et la mort sont comme retirés à l'homme et c'est remis entre les mains du médecin. Comme une espèce de pouvoir qui se comprend quand on voit un tout petit peu toute la complexité des soins d'aujourd'hui, mais qui sont quand même quelque chose de grave. J'entends encore cette personne qui me disait « Mon père, est-ce que j'ai le droit de mourir de ma propre mort ?» que vous voulez me dire. Oui, bon, j'ai 90 ans. Je juge qu'actuellement, ma famille n'a plus besoin de moi. Je suis plutôt une charge. Mais si je tombe malade, je demande au médecin de me donner simplement les médicaments normaux, mais surtout qu'il ne me renvoie pas à l'hôpital. Est-ce que je peux refuser ça? Et qu'on me soigne. S'il me dit qu'il ne peut pas me soigner aussi bien qu'à l'hôpital, je dis, mais tant pis, je mourrai, puis c'est tout. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Je dis, je comprends que vous avez le droit. Pas besoin de pousser à l'extrême. Vous avez 90 ans, c'est suffisant. Vous avez le droit à disparaître de cet univers, de partir pour l'au-delà. Et c'était une réaction de quelqu'un qui sentait très fort. Ce qu'elle voulait, c'était mourir chez elle. Et alors, quand on pousse un tout petit peu, on voit que la médecine veut avoir comme un droit, très souvent, sur le point de vue, du point de départ, avec tous les problèmes d'aujourd'hui, dans lesquels on n'est pas entré, et il vaut mieux pas, parce que c'est tellement complexe, ce problème de la fécondation artificielle, qui est un problème philosophique, auquel le philosophe doit s'intéresser. Et puis le problème de l'euthanasie, le terme de la vie. Est-ce que l'homme a un droit sur la vie, sur son être et sa vie? Sur son être, on comprend très bien ce qu'on disait tout à l'heure. On a reçu l'être gratuitement. N'existait pas avant, donc je pouvais rien faire. Et notre vie, c'est la même chose, puisque pour nous, être et vie sont intimement liés. Je n'ai pas non plus de droit sur ma mort. Mais je comprends qu'il y a des cas extrêmes. Quand on voit quelqu'un qui est très âgé, qui est atteint d'une maladie incurable, humainement parlant, est-ce qu'on va laisser souffrir indéfiniment? Ou est-ce qu'on peut tout simplement le laisser mourir de sa propre mort? Je crois que on peut demander de ne pas nous soigner d'une façon telle que on prolonge une vie qui n'est plus une vie humaine, qui serait une vie tellement ralenti. Alors on n'a pas le droit de supprimer sa vie. Mais on a le droit, prudentiellement, de dire, laissez-moi mourir, tranquillement, paisiblement. Pour soi, on peut le faire. Pour un autre, c'est toujours beaucoup plus difficile. Surtout quand il s'agit de jeunes. Parce qu'on espère tout le temps pouvoir les sauver. Mais quand il s'agit d'un vieillard, c'est différent. Il n'a plus beaucoup de responsabilités. Et par le fait même, il a le droit d'offrir sa vie. S'il croit en Dieu, à Dieu, de l'offrir pour les hommes. S'il ne croit pas en Dieu. Mais on ne peut pas soi-même ou demander à quelqu'un d'autre d'abréger notre vie. Ce qu'on peut, c'est de demander d'abréger ou de soulager les souffrances, ce qui est normal. Et je crois que là, la mesure, c'est justement de ne pas supprimer la conscience totalement, mais de permettre que la souffrance soit vécue de façon humaine. Si la souffrance est trop forte, on ne peut plus la supporter. Et alors à ce moment-là, il y a quelque chose d'inhumain qui dépasse nos forces. Ce qu'on peut, c'est demander de diminuer les souffrances pour qu'elles puissent être supportées plus humainement et offertes à Dieu aussi, de fait, on croit. Supprimer la vie directement, c'est autre chose. Là, on peut dire qu'on n'a pas le droit, et au plan philosophique, on peut le dire, puisqu'on l'a reçu gratuitement, et on ne peut pas mettre nous-mêmes une fin à notre vie. Tu crois? crois pas que le philosophe peut dire beaucoup plus.
Est-ce que le philosophe peut dire quand apparaît la mort? C'est-à-dire parce qu'on ne sait pas tout, tout à fait. Les médecins ont beaucoup de mal à dire quand est-ce que
au fond, la mort, le philosophe peut dire.
Pour le coma végétatif chronique, etc. Ce qui
c'est la séparation de l'âme et du corps. Oui. Donc, que c'est quelque chose qui est toujours violent pour la personne humaine. La mort est toujours, et ça le philosophe peut le dire. L'autre jour, j'étais dans une conférence et quelqu'un m'a contesté en disant que la mort, le philosophe était dire que c'était magnifique, puisque c'était le retour au point de départ. Alors je dis, mais écoutez ça, c'est parce qu'on n'a pas compris que le lien de l'âme et du corps est quelque chose de substantiel, et que c'est notre personne elle-même qui est brisée. Et cela, on ne peut pas dire que c'est tolérable. Bon, on l'accepte, on se résigne, mais c'est toujours quelque chose qui est violent. C'est pour ça que l'appréhension de la mort engendre des angoisses et peut nous mettre dans un état d'angoisse. Et ça n'a rien à voir avec les qualités profondes de notre courage. Oui, la vertu de force nous permet de rester debout devant les dangers de mort, mais on le ressent et on peut avoir cette angoisse d'une mort imminente ou d'une mort qui est toute proche. Le philosophe peut pas, comme un peu pour la création de l'âme, il écoute ce que dit le médecin et il comprend très bien que la mort apparente que dit le médecin, ben, c'est une mort apparente, et que la véritable mort, c'est quand le cerveau n'est plus irrigué. Alors à ce moment-là, il y a un arrêt. Donc, elle existe, on en voit les effets, mais on ne peut pas dire le moment précis.
Et à votre avis, est-ce qu'on peut considérer une personne dont le cerveau est détruit comme encore une personne humaine, même si son corps reste intact parce qu'on peut le nourrir artificiellement?
Oui, je ne crois pas.
Vous croyez pas?
Non.
Ce n'est plus une personne humaine.
Je crois que à ce moment-là, on prolonge indûment la vie. Parce qu'on sait que jamais le cerveau pourra de nouveau revivre. Et il me semble qu'à ce moment-là, c'est presque un manque de respect, je dirais. On continue à faire vivre quelqu'un dont on sait très bien qu'il n'a plus conscience. C'est comme réduit à l'état de plante, comme on dit. Et alors, qu'est-ce que ça représente? Et si les médecins le font, quelquefois, c'est quelquefois par curiosité. Et alors c'est là où je dis, c'est peut-être pas tout à fait un manque, t'as peut-être un manque de respect par rapport à la personne humaine. Parce que quand quelqu'un ne peut plus avoir de réaction humaine, il reste un homme. C'est quand même le corps d'un homme qu'on doit respecter et qu'on n'a pas le droit de ne pas respecter. Et on n'a pas le droit, par le fait même, de manipuler.
Pour vous, le signe, c'est le signe d'un non-retour en arrière possible.
Ah oui, tout à fait.
C'est le problème du point de non-retour.
Oui, le point de non-retour.
Donc, scientifiquement, on est certain qu'on a atteint un point de non-retour.
Oui.
Au fond, on doit laisser la personne mourir, même s'il faut débrancher les appareils.
Oui. Parce qu'à ce moment-là, on prolonge une vie qui n'est plus humaine.